C'est parti.
Excellent. Bon, ben, bonsoir, frères et sœurs.
Bonsoir.
Merci d'être là et soyez indulgents. j'ai intitulé mon message ce soir La croix, bannière du chrétien. Je me suis assis sur, évidemment, dans l'Ancien Testament, quand Moïse conduisait le peuple dans le désert, chaque tribu portait une bannière quand il se déplaçait pour s'identifier. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les temps actuels, dans ce qui se passe, que ce soit mondialement, moralement, dans les cœurs des gens qui nous entourent, ce qu'on voit à la télévision, peu importe, on voit que la bannière qui nous a été donnée, la croix du Christ, est une bannière qui est une immense grâce, mais en même temps, c'est quelque chose de sévère. C'est pas une mince affaire que de porter la croix du Christ en 2020, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce soir, j'aimerais ça qu'on navigue dans l'évangile de Marc, principalement. L'évangile de Marc, c'est un évangile que je trouve très concise. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas d'éditorial des écrivains. Tout se passe une chose après l'autre et ça déboule. Et le texte que j'utilise ce soir, c'est Marc 8, 34. On se retrouve dans le centre de l'Évangile, c'est-à-dire que tout ce qui est des chapitres 1 à 8, inclusivement, les disciples qui sont avec Christ ne comprennent pas tout ce qui se passe. Jusqu'au chapitre 8 où Jésus va demander « Qui je suis? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? » Là, il y en a qui vont dire, bon, t'es Élie, t'es Jean-Baptiste qui est ressuscité, etc., etc. Mais Jésus leur pose la question et dit, vous, qui c'est que vous pensez que je suis? Et là, Pierre va dire, tu es le Christ. Pierre comprend que Jésus a un rôle, Pierre comprend qu'il est envoyé de Dieu, mais il ne comprend pas encore l'Évangile. Ça va juste à partir du chapitre 9, 10 et 11, où là, le Seigneur, par l'Esprit, va commencer à ouvrir l'intelligence des apôtres et va commencer à placer dans le cœur la compréhension de l'Évangile. Parce qu'au chapitre 8, dès que Jésus explique aux disciples qu'il va souffrir, qu'il va aller se faire crucifier, il va se faire battre, il va se faire flageller, etc., Pierre le reprend, il s'en va avec lui, il dit « Seigneur, il n'y en a pas question, tu ne vas pas faire ça, etc. » Et le Seigneur va dire « Arrière de moi, Satan. » Donc, la compréhension de l'Évangile pour les disciples, même s'ils ont passé 2 ans avec lui, ce n'est pas encore clair. Donc, j'aimerais ça qu'on lise le texte principal, puis après ça, on va regarder quelques textes qui nous montrent la grâce de l'appel, mais la sévérité aussi de l'appel. Donc, on va aller lire Marc 8, 27 à 34 inclusivement, mais le verset sur lequel je vais me concentrer, c'est le 8, 34.
Et Jésus s'en alla avec ses disciples dans les bourgs de Césarée de Philippe, et en chemin, il interrogeait ses disciples en disant, « Qui dit-on que je suis? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondant lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit très sévèrement de dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement. Alors Pierre, le prenant avec lui, se mit à le censurer. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, censura Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Et, appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de ses croix et qu'il me suive. »
Amen. C'était la lecture de la parole de Dieu. Texte lourd, on est vraiment dans le point tournant de l'Évangile selon Marc. Comme j'expliquais tantôt, quand on regarde des choses qui se passent, exemple, chapitre 7, la première mention d'une guérison, d'un sourd et d'un muet. Et ça, la foule est ébahie par ça. Donc, c'est la première fois que Jésus en fait, c'est la première fois que ça nous est rapporté, et la foule est émerveillée de ce grand miracle. Après ça, quand on lit le début du chapitre 8, Jésus va guérir un aveugle. Mais fait intéressant, il va imposer ses mains, il va cracher, puis il va mettre de sa bave sur les yeux de l'aveugle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va le faire une première fois. Là, Jésus enlève ses mains, puis il demande à l'aveugle, « Qu'est-ce que tu vois? » Il dit, « Là, écoute, je vois des gens, ça ressemble à des arbres. » Là, le Seigneur va remettre ses mains pour faire une autre intervention. Et là, l'aveugle est guéri. Est-ce que c'est parce que le Seigneur avait pas assez de puissance pour guérir l'aveugle du premier coup? Je ne pense pas. Ce qu'on veut nous montrer ici, c'est que c'est encore un message voilé. C'est encore quelque chose de caché. Parce que quand on se rend au chapitre 10, le Seigneur va guérir un aveugle. Il ne touche même pas. Il dit juste, « Ta foi t'a sauvé. » Et le gars, il part avec lui puis il le suit. Donc, dans le chapitre 8, le 34e verset, on est vraiment dans l'appel du disciple. On est dans l'appel du chrétien à porter la bannière. Quand le Seigneur va dire, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans le grec, qu'il se renie lui-même. C'est un terme qui signifie « faut que tu te divorces de toi-même », autrement dit. Donc, à grand coup de hache dans ton homme naturel, là, gêne-toi pas, ben en masse, là, donne-toi une coupe de coups, tu vas voir, après ça, ça part. Puis se charger de notre croix, c'est de les péchés qu'on a faits, les péchés qu'on va faire, nos pensées, tout ce qu'on a comme background, on se met ça, on s'embarque ça, on a été pardonné, on a été lavé, on va se faire manipuler dans nos pensées par que ce soit des frères et sœurs, Satan, peu importe, whatever, on s'embarque tout ça, on se met ça sur le dos, on part, puis on marche. Donc, ça a trait beaucoup à la sanctification, tout ce processus-là. L'appel du disciple, évidemment, on s'embarque dans la sanctification. J'aimerais qu'on lise maintenant quelques textes, juste pour mettre en évidence, moi je trouve ça vraiment important, vraiment la grâce qui nous est faite d'être appelés par le Seigneur, mais la sévérité qui est là aussi. C'est quelque chose de... c'est sérieux. On n'y est pas avec le Seigneur. On va avoir des comptes à rendre au dernier jour. Fait que j'aimerais ça qu'on lise Marc 8, 35 à 38, s'il vous plaît.
Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.
Amen. Maintenant, si on peut aller dans Marc 10, 29-30.
OK. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers.
Merci. Donc, toujours paradoxe. Grâce, sévérité. Grâce, sévérité. Tu vas perdre des affaires, tu vas en gagner, tu vas avoir des persécutions, mais la vie éternelle. Donc, on navigue toujours là-dedans. Maintenant, Luc 9, 57 à 61. Luc 9, 57 à 61.
Venez nous faire porter, là. 57, 57. Okay. Hein? Oh, 57, hein?
61.
Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard a des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leur mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord apprendre ton rythme de ceux de ma maison. » Jusqu'à quoi?
61.
61,
c'est correct.
C'est correct, OK.
Fait que, encore une fois, belle démonstration. Belle démonstration de grâce et sévérité. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, j'ai beaucoup la COVID, là, parce qu'évidemment, c'est un impact sur la communauté de foi. Et j'ai trois points par rapport à ce verset-là. Si on vient à notre texte principal qui est Marc 8, 34. Mon premier point, ça va être comment appliquer ce verset-là de manière personnelle. Mon deuxième point, ça va être comment appliquer ce verset-là de manière collective, donc dans la communauté de foi. Et mon troisième point sera comment appliquer ce verset-là dans un aspect missionnel. Parce qu'en communauté de foi, on est appelé à être en mission, partout où on est. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans le milieu évangélique. Moi, je l'ai entendu quelques fois et j'ai trouvé ça extrêmement triste, cette phrase-là. Les gens souvent vont dire tout ce qui est important, dans le fond, c'est d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Souvent, les gens qui vont utiliser cette phrase-là, ça va être des gens qui ne viendront plus à l'Église et ça va être des gens qui vont, moi en tout cas de ce que j'ai vu, là, de mon expérience, ça va être des gens qui vont vivre dans l'immoralité. Ça va être des gens qui ils font ce qu'ils veulent. Ils vont peut-être prier le soir, ils vont peut-être parler à Dieu pendant la journée, mais d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, ça commence par quoi? Évidemment, ça commence par les outils de grâce qui nous sont donnés. Prière, étude de la parole, l'assemblée, la communion fraternelle. Il y en a d'autres, là, mais je pense que là-dedans, on a les principaux. Et de manière personnelle, je pense, et c'est un impératif, je pense, on a à nous, en tant que croyants, à savoir appliquer l'Évangile dans notre quotidien. Donc, le verset que j'ai choisi, Marc 8, 34, on le retrouve aussi dans Marc 9, 23. Et la différence qu'on y trouve, qui est super intéressante, celui qui veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix à tous les jours, à chaque jour, et qu'il me suive. Donc, à chaque jour, qu'est-ce qu'on a à faire comme disciple? Et là, je pense que c'est important d'avoir une bonne compréhension de la loi et de l'Évangile. Dans le sens que chaque chose qu'on va faire, et ce n'est pas une question de devenir maladif, mais si on veut savoir, si on veut comprendre où on est rendu dans notre relation avec Dieu, je dirais même plus dans notre communion avec Dieu, comment on va mettre en perspective la loi versus l'Évangile. Et ça, dans toutes sortes de situations. Évidemment, on pourrait faire le tour du mariage, des familles, de notre culte personnel avec le Seigneur. Il y a plein de domaines. On ne pourra pas toutes les passer, évidemment. Mais je pense que personnellement, nous, en tant qu'individu, en tant que personne régénérée, on a des comptes à rendre devant le Seigneur. Donc, si, je vous donne un exemple, si je m'en vais au restaurant, et là, je tente deux rendez-vous, là, c'est long, la serveuse abrète, je suis un peu fâché, puis je dis, ben, dis donc, ben, elle est lente, ben, poche la serveuse, le service, c'est pas bon ici, blablabla. Donc, là, je suis en train de sortir de l'Évangile, je suis en train de sortir de mon appel du chrétien. Pourquoi? Parce que je passe mes idoles ou ce que moi je trouve qui est bon en avant de ce qui se passe alentour de moi. Puis apprendre à discerner, OK, François, c'est quoi qui se passe? Si tu es en tabarouette, tu es au restaurant, est-ce que c'est parce que tu as mal calculé ton temps? Est-ce que c'est parce que tu en as pris trop dans ta journée? Ou est-ce que c'est parce que tu voudrais que tout le monde pense comme toi? Bien, si tu veux que tout le monde pense comme toi, tu as un problème. Si tu calcules mal ton temps, tu as un autre problème. Puis si tu... Bon, vous comprenez? Donc ça, c'est une situation banale de la vie. Mais personnellement, je pense, et c'est évident, dans notre manière de sonder les Écritures, le temps qu'on passe quotidiennement dans la parole, dans la prière... Comment on va se pardonner, nous, les choses? C'est toutes des choses de base qui sont importantes. Parce que si on n'apprend pas à gérer notre loi versus l'Évangile personnellement, dans nos cultes, dans notre lecture de la parole, qu'est-ce qui se passe après ça quand on arrive en communauté? Parce que là, on arrive en communauté, là, on se frotte les uns ces autres. Quand ça va bien, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais quand on rentre dans des défis comme exactement ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui avec la COVID-19, on est face à des présupposés personnels qu'on a, tous et chacun. On a une opinion sur la COVID, on a une opinion sur ce que les autres pensent de la COVID, on a une opinion sur nos gouvernements, on a ci, on a ça, on a ci, on a ça. Puis là, il faut faire attention, là. Parce que si on parle un peu trop ou pas assez, on se fait juger. On peut se faire dévisager. On peut se faire regarder. Notre communauté de foi, malgré la COVID-19, on est appelé à s'aimer les uns les autres. Puis quand on lit Jean 13, puis que le Seigneur enseigne ça à ses disciples, il ne dit pas, mais si la COVID-19 est là, faites ce que vous voulez. Non, 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 non. On est appelé à s'aimer en tout temps. Je ne suis pas en train de dire, de défier les autorités, je ne suis pas en train de sortir de Romains 13. Loin de là. Je ne veux pas que personne entende mal mes paroles. Mais ce que je pense, c'est qu'on a en Église, à l'heure actuelle, en communauté de foi, à prier pour revisiter comment on fait l'Église dans les circonstances. Comment on peut s'assembler dans les circonstances. Parce que notre appel, il est modelable. Notre appel de se rassembler en communauté, Il est là encore. Et quand on lit, là, que ce soit l'Épître aux Romains, que ce soit l'Épître aux Corinthiens, la première, la deuxième, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Éphésiens, aux Colossiens, à chaque fois, puis le plus beau, là, moi je vous dirais que c'est 1 Corinthien. Mais qu'est-ce que Paul fait? Il redirige toujours les yeux des croyants sur l'appel personnel et l'appel en communauté. Toujours, toujours, toujours. Vous lirez vos épîtres, je vous le dis, vous allez être capable de vous mettre ça en avant des yeux, là. C'est, pour utiliser une expression anglaise, c'est flabbergastant. Ça pète d'en face. C'est que ça. Fait qu'en 2020, pardon, dans la COVID-19 aujourd'hui, on ne fait pas exception. On a à revisiter, à recadrer nos cultes, les manières de se rencontrer. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, ça génère des peurs pour certains. Il y en a pour qui ça va générer du je m'en foutisme. On est appelé à faire un mélange de tout ça. Si vous avez peur, si vous êtes du type peur, je suggère fortement, fortement, de mettre vos peurs premièrement en avant du Seigneur et de voir si les peurs qui sont là sont-elles fondées. Parce que oui, nos gouvernements mettre des choses en place. Oui, nos gouvernements font ce qu'ils peuvent. Mais nos gouvernements, ça ne veut pas dire qu'ils gèrent parfaitement ce qui se passe. Et d'avoir un esprit critique sur, premièrement, nos propres peurs et nos gouvernements, de la façon que c'est géré, je pense que c'est indispensable. Et pire que ça, il faut le faire. Comment voulez-vous qu'on soit une communauté qui se rassemble, qui partage, qui continue à être missionnelle dans les limites qui nous sont imposées, si on n'est pas capable de critiquer nos propres choix et les gouvernements? Échec et mat. C'est un échec et mat. On peut-tu lire? On va aller dans Hébreux 3.13. Ce texte-là me fait triper, mais il est dur en même temps. Si quelqu'un peut lire Hébreux 3.13.
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
La peur peut être un péché. Puis attention, je vais dire quelque chose, je ne veux pas que vous vous sentiez jugé. On a un avocat auprès du Père. Mais les anxiétés que nous avons, et j'en ai, les anxiétés qu'on a peuvent être péché parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer notre focus sur « j'ai peur, je ne me sens pas bien, c'est normal, on est pécheur ». Qu'est-ce qu'ont fait les apôtres là, pendant qu'ils étaient dans le bateau puis ils traversaient, là, puis là c'était la tempête, puis là Jésus, le Seigneur, est en train de dormir? Hey, Seigneur, tu t'occupes pas de nous autres? Hey, on est en train de périr! Il s'est levé, il a calmé la tempête. Moi, je pense et je suis convaincu que de manière personnelle et communautaire, puis Hébreux 13, moi, je le trouve limpide à ce sujet-là. Limpide. On a à travailler de manière personnelle pour nos craintes, nos peurs, puis on a à travailler en communauté également. Puis ça, là, on aurait pu lire l'Épître de Jacques au complet. Au complet. Nettoyez vos mains, pécheurs. Humiliez-vous. Approchez-vous de lui. Il s'approchera. Surveillez la langue, l'homme qui est capable de... Vous comprenez, là, toute l'épître de Jacques au complet, là, on aurait pu le lire, on aurait pu le disséquer, là, puis ça rentre pile poil au poil là-dedans. Ça m'amène... J'ai glissé là, tranquillement dans mon deuxième point, j'ai mélangé mes deux premiers points, donc l'appel personnel, et l'appel en communauté. Notre communauté, je l'ai à cœur. Les gens qui viennent ici, je l'ai à cœur. Pour moi, c'est important. Ce que j'avais comme message, puis en passant, là, pour être très, très, très honnête avec vous, là, hier, pendant que je préparais mon message, là, j'ai passé à deux poêles d'appeler Marcel parce que j'ai parlé à Raymond. J'ai dit, Raymond, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise d'aller parler de ça. C'est le message que j'ai sur mon cœur. Mais je me sens pas à l'aise. Parce que mon but n'est pas de troubler l'Assemblée. Mon but n'est pas de vous mettre une pression. Mon but est de nous rappeler et de rediriger les regards sur Christ et l'Évangile et comment on peut procéder en temps de COVID-19 en Église, tout en respectant Romains 13, mais tout en étant authentique aussi. Parce que je suis convaincu que la COVID-19, pour l'Église, est un moyen que le Seigneur utilise pour aller débusquer des idoles et des péchés que, frères et sœurs, nous avons tous, sans exception. Mon troisième point, comment appliquer ce verset-là en mission? Comment porter la bannière du Christ, cette croix qui nous est chère, cette croix qu'on regarde avec « Seigneur, merci, tu m'as sauvé ». Oui, Seigneur nous a sauvés, mais il nous demande encore de faire des affaires. Puis j'ai apporté un texte. J'ai donné un texte à Marcel. Vous connaissez sûrement tout le groupe Les Cowboys Fringants. Et j'aimerais qu'on lise le texte de cette chanson-là. Il n'y a rien de vulgaire, mais je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi. C'est une chanson qui a été faite, je pense, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et je trouve personnellement que dans ce texte, l'appel qui est lancé là, si nous, en tant que croyants, ça ne vient pas nous chercher, prions.
OK, l'Amérique pleure, parole de Les Cowboys Fringants. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée. Dans mon 4 heures de sommeil, yeah, je tire une bûche, une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine, yeah. Je prends le Florida Turnpike, demain soir, je suis à Montmagny. Non, trucker, c'est pas vraiment le Klondike, mais si tu vois du pays, yeah. Surtout que ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore à la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois tout l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi, je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah, pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera plus rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois tout l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle. Un accident mortel. Yeah! Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon. tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, il n'y a plus tellement d'amour. Yeah! On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient de déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois tout l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Mais n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah! Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, m'éloigner de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai tout l'Amérique qui pleure, quelque part au fond du cœur.
Le paradoxe entre personnel et humanitaire, on le retrouve ici. Mais le gars, il est désespéré, il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Fait que c'est pour ça que quand, la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, là, j'ai dit, quelle brillance! Ça parle, quand Ecclésiaste nous dit là, que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur, c'est ça, c'est là. Le gars, il se pose des questions. Et puis le gars qui écrit ce texte-là, moi, je trouve qu'il réussit à faire un beau portrait de notre société pourrie, post-moderne, qui consomme et qui s'en va dans n'importe quelle direction. C'est pour ça que je reviens à mon point missionnel. Ça, c'est notre appel. Des gens qui écrivent ça puis qui sont lucides à ce point-là, il y en a. Mais les gens, ça les inquiète, ça les écœure. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'étais en auto avec mon garçon, Victor, qui a 20 ans. Puis il y avait une de ses amies qui était là. Et on était allé voir ma fille, Lana, qui faisait un concert. Et après le concert, on s'en revient dans l'auto. Et moi, ça me brûlait. La petite fille, elle a 17 ans, tu sais, là, puis elle est là, puis en arrière. Puis là, on jase de toutes sortes d'affaires. Elle s'en va en travail social. Puis elle est toute motivée. Puis elle est toute contente. Puis... elle a un beau cœur, une belle personne, c'est super, tu sais. Et là, je lui pose la question qui tue. D'où vient la loi morale? D'où vient qu'on sait dans notre cœur que ça c'est bien, puis ça c'est mal? Et la petite demoiselle, là, elle m'a dit, et je répète ses paroles, ça me rend trop anxieuse, je ne veux pas en parler. 17 ans. La loi de Dieu, là, a fait son œuvre, est écrite dans les cœurs. Comment on fait aujourd'hui, frères et sœurs, pour continuer notre mission malgré la COVID-19? Premièrement, je pense que la prière est de mise, seule, mais communautairement, pour ça. Seigneur, tu nous veux où? Tu nous veux comment dans notre communauté? Quels gens qu'on doit atteindre? De quelle manière? Internet, peu importe. On doit se pencher, puis réfléchir, puis être proactif. Pour la simple et bonne raison qu'au jugement dernier, on va avoir des comptes à rendre en Église, sur comment on a propagé le nom du Christ Jésus. Ça nous revient, ça. On va avoir des comptes, tout le monde, personnellement aussi, mais en communauté. Et c'est notre responsabilité. Puis gloire à Dieu, il est mort sur la croix en Jésus-Christ pour nous pardonner de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Évidemment, ça s'en vient plus difficile. Et ça, je nous l'accorde. Mais même si c'est plus difficile, Hébreux 3:13 est clair. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, on peut le dire encore, même si on est dans le rouge, on peut le dire aujourd'hui. Et notre premier mandat, c'est de s'occuper des choses d'en haut. C'est notre premier mandat. Puis on a des forces dans l'Église. Oui, on a peut-être une Église qui est vieillissante, mais je pense sincèrement que Dieu a la provision pour notre Église. Dieu a la provision. J'aimerais ça qu'on aille lire dans Romains 15, 5 et 6.
Romains 15.
5 et 6.
Romains 15, 5 et 6. Oui, j'attends. C'est beau, on y va. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu.
Quand il nous dit, là, au verset, je pense que c'est le verset 6, qui nous dit qu'on soit, j'ai oublié l'expression que tu as dite, parce que ce n'est pas celle-là que j'avais dans la tête, là, Jean, mais...
Afin que tout soit d'une seule bouche.
Je ne sais pas, en tout cas, dans le grec, ce que ça signifie le mot, qu'on soit d'un commun accord ou de... qu'on soit de, c'est ça, d'un commun accord, l'image du mot, ce que le mot veut dire en fait, c'est qu'on soit un bouquet de fleurs attachés ensemble. C'est ça l'image. En tant que chrétien, on est des fleurs, mais on est attachés ensemble. Puis on doit aller dans la même direction. Dans la même direction. Et puis ça, c'est important. Puis j'aimerais vous laisser sur un dernier verset, moi, qui m'aide, parce que c'est dur. Pour moi, c'est dur de prêcher ça. C'est pas quelque chose de facile. J'arrive pas ici, là, puis je dis, tu vas voir, mon brossé l'Assemblée, pantoute. Pour le message que je vous livre là, moi, je vais avoir des comptes à rendre à Dieu. Puis je les mets en prière, puis j'ai prié, puis j'en ai parlé. Puis on est devant Dieu, coram Deo. Puis le verset qui me revient et qui m'amène à louer et à être dans la joie, malgré les défis qu'il y a, malgré les tensions, les peurs, les anxiétés, 1 Jean 3:20, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Donc, soyez sûr qu'on est accueilli auprès du Père, malgré ce que ça peut faire, malgré les défis qu'on a, malgré nos manquements, malgré tout ça. Christ est mort. Il a porté sa croix, mais il a porté la nôtre. Il a porté les deux. C'est pour ça qu'on peut aller vers lui. C'est pour ça qu'on peut aller à lui. Et allons-y, qu'on ne se prive pas de cette grâce, autant personnellement, autant en Église. Amen.
Amen.